Aujourd'hui, on nous vante la 5G, et c'est très bien pour envoyer des documents toujours plus volumineux, mais est-ce que nous avons vraiment besoin, dans notre quotidien, dans notre sphère privée, d'outils comme ceux-ci? Est-ce que parfois, un papier n'est pas plus pertinent que l'envoi de messages? Il faut se poser la question, une question d'organisation de notre société, d'organisation de nos relations de demain.
Bienvenue dans le podcast « Activer l'économie circulaire ».
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Activer l'économie circulaire. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Dosser. Bonjour Arnaud.
Bonjour Brieux.
Alors, on va retracer un petit peu ton parcours et puis surtout parler aujourd'hui de papier puisque c'est ton activité principale. On va y revenir dans les détails. Et puis surtout qu'il y a une actualité intéressante sur le sujet depuis quelques années, enfin d'autant plus aujourd'hui, je pense. Et donc voilà pourquoi je trouve que c'était intéressant d'en discuter ensemble. Est-ce que déjà tu peux nous présenter, te présenter et nous présenter ton parcours, s'il te plaît?
Oui, bonjour à tous, bonjour Brieux, Arnaud Dosser, j'ai 49 ans, je suis marié, père de deux enfants de 12 et 13 ans, donc une génération très concernée par l'avenir, l'avenir notamment et l'environnement. J'ai débuté ma carrière il y a maintenant plus de 20 ans au sein de Veolia, une entité de Veolia Propreté, où j'y ai passé une douzaine d'années. J'avais notamment en charge l'organisation de services publics de collecte de déchets ménagers et collecte sélective. J'ai d'ailleurs participé à la mise en place sur plusieurs communes d'Île-de-France de pré-collecte, donc de bac, de mise en place de bac de pré-collecte sélective et donc de sensibilisation au tri. J'ai rejoint le groupe UPM et l'usine Chapelle d'Arblay, la seule usine en France à produire du papier 100% issu de circuits de récupération, donc où je suis en charge d'acheter auprès des collectivités locales du papier à recycler. J'ai également en charge l'animation des relations avec les institutions, que ce soit Citeo, Copacel, la Fédération des industries papetières, également Amorce, notamment. Et puis j'ai une autre casquette, puisque je suis représentant sans étiquette au comité social d'entreprise, je suis actuellement les discussions dans le cadre de la mise en vente du site Chapelle d'Arblay, avec toutes les inquiétudes et les conséquences que ça peut avoir sur les filières papier-carton.
D'accord. Et donc, justement, l'idée, c'est aussi de retracer un petit peu l'historique, disons, de ce sujet du recyclage du papier, parce que c'est entre ton arrivée chez UPM en 2007 et aujourd'hui, il y a eu pas mal des événements. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur comment ça a évolué, enfin, quelle était la situation quand tu es arrivé, et puis quels ont été un petit peu les événements au fur et à mesure?
Il faut tout d'abord savoir que le site Chapelle d'Arblay n'est pas un site industriel comme un autre. C'est sur ce site, c'est d'ailleurs ce site qui est ancien puisqu'il date de 1928, nous avons fêté ses 90 ans l'an passé. C'est sur ce site qui a été inventé le recyclage du papier en France et qui s'est structuré autour du besoin de ce site, s'est structuré la collecte sélective des papiers avant même l'émergence des éco-organismes et l'émergence des collectes sélectives. L'industriel, dès 85, a introduit la première fibre issue d'un circuit de récupération, la première fibre papetière dans un process industriel papetier. Ce site a basculé en 100% recyclé en 1999. Il faut savoir que le basculement, la reconversion d'outils industriels papetiers est irréversible. Lorsque vous basculez sur du 100% recyclé, vous ne pouvez plus revenir sur de la pâte vierge. Donc, ça a été un changement et c'est ce qui a permis aux collectivités locales, eh bien, de s'engager dans des collectes sélectives du papier. Et c'est ce qui fait un petit peu l'ADN de Chapelle-Larblay, c'est ce partenariat privilégié qu'il a su entretenir durant plus de 35 ans avec des collectivités locales. Chapelle-Larblay, c'est aussi une actualité, c'est une usine qui bouge, puisque eh bien, en 35 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des belles années, et puis il y a 4 ans, il y a eu l'adaptation des la fermeture de la machine 3, puisque sur le site de Grand Couronne, nous avons deux machines à papier, nous avions deux machines à papier. Aujourd'hui, seule l'une des deux fonctionne toujours. Alors pourquoi le papetier doit-il adapter ses capacités? C'est pour des raisons évidentes de chute de la consommation. Tout le monde qui écoute cette interview sait que nous utilisons, nous lisons de moins en moins de journaux, de magazines. En tout cas, les abonnements chutent. Et donc la consommation de papier baisse de manière chronique, de l'ordre de 7%, entre 6 et 9% par an. Et donc la crise chronique de nos clients fait qu'un groupe comme UPM aujourd'hui doit adapter ses capacités.
Oui, bien sûr. Donc ça c'est le premier aspect, effectivement, donc sur cette baisse finalement de l'exutoire, enfin de vos ventes. Mais après il y a d'autres aspects, c'est-à-dire que même pour vous, l'approvisionnement est difficile parce que évidemment c'est un cercle continu. Mais après, il y a sur le sujet du papier en règle générale, c'est que le recyclage est de plus en plus promu, disons. Mais est-ce que c'était simple justement de mettre en place toutes ces filières de valorisation pour toi depuis plus d'une dizaine d'années?
Alors, c'est effectivement le paradoxe de la situation. Chapelle-Larblay, comme je disais, est plus qu'une simple papeterie ou une simple industrie. C'est une industrie qui a su jouer et qui joue encore aujourd'hui un rôle sociétal. Si les collectivités se sont organisées de manière à trier de manière privilégiée le papier graphique dans les centres de tri, c'était lié à un besoin de l'industrie de recyclage pour produire de nouveau un papier journal recyclé. Donc c'est aujourd'hui fermer un site ou imaginer transformer ou fermer un site comme Chapelle-Larblay, c'est-à-dire cesser de faire de la production de graphique, est fortement préjudiciable et très inquiétant pour l'avenir de la filière papier et dans son ensemble la filière papier carton. Chapelle-Larblay aujourd'hui consomme près de 400 000 tonnes de papier issu du tri sélectif. C'est environ 20 millions d'habitants trieurs qui sont concernés par l'avenir industriel du site de Grand Couronne.
Et donc ça veut dire que, juste qu'on se rende bien compte, 20 millions de trieurs français, ça fait quelle partie du territoire? C'est tout le quart nord-ouest, c'est région parisienne comprise, c'est...
Alors c'est 20%, 20-25% environ de la production totale. L'usine essentiellement s'alimente dans le Grand Ouest, hein, et dans le nord de la France, et bien évidemment en Île-de-France, qui est son gisement principal. Ce qui nous a permis d'ailleurs, il y a maintenant une petite vingtaine d'années, de développer un transport fluvial entre Paris et Rouen. Puis entre Paris, Rouen, puis Le Havre également.
Effectivement, on va peut-être le préciser, parce que Chapelle-Larblay, c'est évident pour toi, mais vous êtes en plein milieu de la Normandie, à proximité de la Seine, donc pas loin de Rouen également, effectivement.
Exactement, nous sommes sur la zone portuaire de Rouen, Rouen étant le dernier port maritime, donc vraiment, l'usine se trouve en Boraké. Bon, pour des questions évidentes de process, hein, nous avons besoin d'utiliser, et non pas de consommer, mais d'utiliser de l'eau pour favoriser le process. Et la Seine, donc ce fleuve nourricier, quelque part, eh bien, nous permet de cheminer du papier recyclé de Paris vers Rouen. Et jusqu'en 2011, nous renvoyions les bobines, le produit fini, vers les imprimeurs en région Île-de-France. Donc c'était un cycle vertueux. Aujourd'hui, des choix économiques ont fait que les bobines repartent par camion vers nos clients, ce qui est très dommageable, mais c'est ainsi. Mais en tout cas, cette logistique fluviale avait été d'ailleurs primée en 2008 comme une logistique innovante, et nous en sommes très fiers.
Mais alors d'ailleurs, ça c'est un choix de vos clients. Comment on peut juste faire une petite parenthèse là-dessus? Pourquoi en fait ce transport fluvial plutôt malin effectivement a disparu?
C'est tout à fait vrai. C'est un choix de nos fournisseurs. Si à l'époque le SICTOM, donc l'engagement politique.
Alors le SICTOM, là aussi, on va peut-être préciser le syndicat de collecte des collectivités en Île-de-France pour tout ce qui est gestion des déchets, quoi.
Syndicat de traitement, effectivement, des déchets des collectivités franciliennes, enfin de la quasi-totalité, une bonne partie, on va dire, même
ouais,
si. Enfin, c'est l'acteur majeur, hein, c'est plus de 6 millions d'habitants, le SICTOM, donc c'est quelque chose d'énorme. D'ailleurs, nous qui sommes un groupe finlandais, la Finlande, c'est 6 millions d'habitants, le SICTOM est quasiment regrouperait la quasi-totalité des Finlandais. Donc effectivement, le SICTOM à l'époque, les élus et les dirigeants du SICTOM nous avaient incité fortement à mettre en œuvre quelque chose qui était évident, enfin qui devait s'imposer comme une évidence, à savoir un transport fluvial entre les quais de Seine et le quai de la papeterie. À l'époque, nous avions les centres de tri étaient dans une autre configuration, mais nous avions le centre de tri de Nanterre en bord à quai, nous avions le centre de tri de Gennevilliers qui lui également était en bord à quai, et c'était avant la construction du centre d'ICEAN qui était en construction à l'époque, d'où nous chargeons d'ailleurs sur un quai à proximité, le quai du Point du Jour ou les quais de Boulogne, du papier également. Et donc c'était effectivement une évidence que d'imposer, outre la filière de proximité que nous étions, puisque nous sommes la papeterie qui est à 120 km à Val d'Oiseau de Paris, à cette proximité d'y associer un transport alternatif, un transport doux.
Oui, c'était tout simplement de la logistique inversée finalement.
C'est de la logistique inversée et c'est de la logistique tout à fait logique, évidente, et même si aujourd'hui, enfin, c'est évident sur le papier, c'est plus coûteux économiquement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça devrait changer. Nous avons commencé à y travailler, mais la logistique fluviale coûte jusqu'à 3 à 4 fois plus cher qu'une logistique camion, toute simple.
D'accord.
Alors. 3 à 4 fois plus cher, ça peut faire réagir, mais nous intégrons dans ces surcoûts les coûts logistiques d'approche, parce que dans certains cas, les centres de tri ne sont pas embarraqués, les questions aussi de nettoyage, les frais portuaires également. Donc si vous rajoutez un brouettage à l'aller, un brouettage côté usine, plus ces frais annexes, nous arrivons à des surcoûts qui expliquent ces x3 par rapport au camion.
Oui, bien sûr. Mais après, c'est pas la même quantité qui est transportée, mais malgré ça, à la tonne transportée, vous êtes à 3 à 4 fois plus cher.
Effectivement, bien sûr, et tu as tout à fait raison de souligner qu'en fait c'est le bilan global qu'il faut prendre en compte, puisque dans la mesure où c'était un partenariat avec le syndicat de Paris, le SICTOM de l'agglomération parisienne, eh bien nous avions discuter sur le prix de reprise qu'il était nécessaire de proposer, de manière à ce que cette logistique et cette reprise restent dans un cadre cohérent à la fois pour l'industriel et pour la collectivité.
D'accord. Et donc là, on referme un petit peu cette parenthèse du transport fluvial, mais qui était quand même intéressante, pour revenir justement à tout ce qui est le traitement du papier. Donc comment ça s'est déroulé à partir de 2011? Comment, malgré toutes les filières que tu mets en place, qu'est-ce qui s'est passé finalement?
Alors, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que comme je le disais précédemment, nos clients sont en crise chronique. Nos clients, quels sont-ils? Ce sont des éditeurs, des le monde de la publication, le monde de la presse, Donc, Chapelle d'Arbray produit du papier de presse et les quotidiens aujourd'hui se vendent de moins en moins bien. Alors même si la PQR, la presse quotidienne régionale, s'en sort plutôt moins mal, les quotidiens nationaux, eux, fondent comme neige au soleil. Il suffit de voir à la fois le changement de format, le changement de grammage et également le contenu éditorial qui se réduit fortement, concurrencé par tout ce qui est médias dématérialisés, médias radio et médias sur tablette ou sur iPhone. Ce qui fait que lorsque...
Et même les podcasts qu'on est en train d'enregistrer.
Oui, mais qui sont des podcasts tout à fait pédagogiques et qui permettent d'expliquer ça. Effectivement, faut voir deux choses différentes. Faut voir le média utile et du média, j'irais, superficiel ou superflu, on va dire. Certains médias d'information.
Ce que je veux dire par là, c'est que l'équipe, par exemple, tu vois, ça m'a fait penser quand tu évoquais les changements de format. Effectivement, ils étaient sur un format qui était immense. Oui, ils sont passés à un format qui était beaucoup plus petit. Et puis, pareil, ils se développent sur de nouveaux supports, évidemment, sur les supports numériques, mais les podcasts aussi font partie des nouveaux supports sur lesquels ils évoluent. Donc, ça illustre bien ce changement de paradigme que tu décrivais.
Alors après, il ne faut pas opposer les deux médias, bien évidemment, loin de moi cette idée. C'est sûr que nous souffrons d'une désaffection aussi des annonceurs, hein, puisque si moins il y a d'annonceurs, pire le média papier plus mal nous portons, puisque nous sommes financés aussi, le média papier est aussi financé pour partie par les annonceurs. Après, les deux sont complémentaires. Et je dirais que le papier, quelque part, reste. Alors ça, c'est mon côté militant. Lorsqu'on travaille dans le papier, on a absolument envie de pousser le papier sur le devant. Mais c'est vrai que le papier reste déjà un support agréable à lire. Il y a une certaine sensualité avec le contact du papier. Et puis, le média papier reste aussi un rempart en faveur de la démocratie sur le papier. C'est sûr qu'il y a aussi des fake news, mais ce sont des fake news qui sont peut-être mieux digérées, ou en tout cas ce sont des articles de fond qui font l'objet de réflexions poussées, d'engagement aussi de celui qui le rédige.
Oui, bien sûr.
Et puis on le voit aussi dans les livres. Le livre est quelque chose auquel le lecteur est très attaché.
Alors là, on a parlé plus de l'aspect, disons, économique. Après, moi, il y avait un autre aspect que je voulais évoquer avec toi, c'est surtout ce qui est lié aux enjeux sociaux, parce que tu l'as brièvement évoqué également. Mais une entreprise comme une usine de recyclage de papier comme celle du PM, il y en a déjà de moins en moins en France, et pourtant c'est un véritable savoir-faire. Comment finalement, de souvenir, on peut compter sur le doigt d'une main le nombre de papetiers, non, déjà, qui existent en France sur le sujet.
Alors, en termes de papier, production de papier journal, oui, il n'en reste plus que deux. Hein, donc, Norske Skog Golbey dans les Vosges, côté d'Épinal, et puis Chapelle d'Arblay. Donc, ce sont les deux seules unités qui produisent du papier journal à partir de papier recyclé. Golbey, eux, étant mixte bois-papier encore. Ils ont les deux. Chapelle d'Arblay étant la seule usine qui ait été totalement convertie à l'utilisation du papier 100% recyclé.
Soit dit entre parenthèses, quelles sont les autres applications possibles pour ceux et celles qui trient leur papier chez eux, qui ne font pas partie de la zone géographique que tu as évoquée tout à l'heure?
Ces papiers, alors il faut savoir que notre zone d'approvisionnement, idéalement, se fait dans un rayon de 350 km autour de l'usine. Pour autant, il y a de nombreux acteurs qui se sont positionnés sur le même gisement que le nôtre et qui font qu'aujourd'hui, nous devons aller chercher toujours plus loin notre papier pour garantir la couverture de la machine pour sa production. Les autres acteurs, quels sont-ils outre notre compétiteur, nos confrères des Vosges? Il y a également des négociants dont le métier est d'acheter du papier et de le revendre à l'étranger, en Europe principalement pour le papier graphique, ou à l'étranger pour ce qui est carton et autres sortes graphiques. Après, il y a différentes applications. Il y a différentes applications, que ce soit donc du papier d'hygiène comme les essuie-tout, papier toilette. Il y a le papier pour impression, donc le papier ramette. Il y a également un papier magazine. Enfin, il y a différents types d'utilisation qui font qu'il y a différents acteurs qui se positionnent. Tous ne se positionnent pas, par contre, sur le même type de papier. Mais tous les papiers étant recyclables, eh bien, chaque papetier, chaque spécialité, il trouve son compte. Vous avez, par exemple, sur Château-Thierry, un producteur de pâtes recyclées pour papier ramette, donc qui s'alimente essentiellement auprès d'acteurs économiques issus du tertiaire, notamment donc les papiers de désarchivage, papier bureautique, quel est le support qu'ils utilisent.
Surtout l'application, l'usage qu'ils vont faire du papier va faire qu'ils vont être plus ou moins exigeants sur la qualité de l'approvisionnement. Encore, arrête-toi si je me trompe, mais pour ce qui est de Chapelle d'Arblay, étant donné que vous êtes sur un usage du papier qui est pas trop exigeant en termes techniques, vous pouvez être un petit peu plus ouvert en termes d'approvisionnement, non ?
Alors oui, c'est vrai que la sorte à désancrer que nous utilisons, c'est la sorte standard. Donc c'est la plus commune et c'est celle qui est produite par les centres de tri, donc le principal gisement que nous avons aujourd'hui sur le territoire. C'est le résultat du tri des Français. Donc le tri des Français lorsqu'ils mettent leur papier dans leur collecte sélective en mélange, arrive dans un centre de tri, lequel centre de tri nous produit cette sorte standard qui nous permet de produire de nouveau un papier journal issu d'un mixte de fibres graphiques qui nous permet de pouvoir produire notre papier journal classique. En revanche, effectivement, d'autres papetiers ont besoin d'une fibre vraiment homogène et de même origine que le papier qu'ils vont le papier recyclé qu'ils vont de nouveau produire. Donc c'est le cas pour la ramette. Pour le papier sanitaire, paradoxalement, on a besoin aussi de sortes dites supérieures ou de qualités supérieures. Donc ces qualités, nous les trouvons peut-être plus à ce moment-là du côté des imprimeurs, des rognures d'imprimerie, des chutes d'imprimeurs, etc. Donc ce sont des papiers qui sont issus d'un autre circuit de collecte sélective qui est plus industriel. Oui. Donc nous sommes plutôt spécialisés, nous alimentons auprès d'un circuit domestique, donc issu des collectes sélectives.
D'où le fait que tu évoquais le système tout à l'heure, par exemple.
Exactement. Alors je reviens aussi sur ce que tu disais. Les acteurs du négoce, notamment, trouvaient preneurs, notamment en Asie, pour des sortes cartons ou autres. Il se trouve que l'Asie aujourd'hui, depuis maintenant un an et demi, deux ans, a fermé ses portes, ou en tout cas a relevé ses niveaux d'exigence qualité de manière draconienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, très peu de papiers trouvent preneurs en Asie, et ça a pour conséquence de créer des tensions très fortes sur la filière papier-carton. Et aujourd'hui, nous trouvons confrontés, en tout cas les acteurs du recyclage, les acteurs du tri des déchets, se trouvent confrontés à un problème d'exutoire, un problème de solution de recyclage à l'étranger, ce qui a pour conséquence de saturer les stockages des centres de tri et pose question sur l'avenir pur et simple du recyclage des papiers cartons en France aujourd'hui.
Alors, juste pour préciser, effectivement, l'Asie, on peut dire, tu peux le dire ouvertement, c'est la Chine, effectivement, qui en décembre 2017 a véritablement augmenté ses critères qualité, alors que jusqu'à présent, ils achetaient la plupart des gisements de papier carton, effectivement, pour leur consommation nationale, ou même parfois pour tout simplement réexporter leurs produits sous forme de carton, etc. Et donc, effectivement, ça a changé les habitudes des négociants, que ce soit en Europe ou même en Amérique du Nord, ou même, ce que tu évoques là sur le papier, on retrouve aussi ce problème sur le plastique. Aujourd'hui, il y a même des villes en Amérique du Nord qui ont arrêter le tri des plastiques parce qu'ils n'avaient pas du tout le savoir-faire pour faire le recyclage de leur plastique. Et donc, tout partait en Chine de façon automatique. Et finalement, bah, c'est ce manque de savoir-faire locaux, ce manque de résilience finalement, qui fait que ça mène à des situations complètement ubuesques, parce que ce plastique, aujourd'hui, il l'enfouit. Donc, on arrive à des situations complètement aberrantes. Et donc, voilà, effectivement, je t'invite à continuer là-dessus, mais ça me semblait important de faire des petites précisions pour ceux qui nous écoutent.
Bah, tu as complètement raison. Dans la mesure où aujourd'hui, la filière, dans son entité, enfin, la filière elle-même est en difficulté, la filière papier-carton, est en difficulté en termes d'exutoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important peut-être de repenser l'ensemble de cette filière. Alors, on a eu des débats très récents, d'ailleurs, qui sont toujours d'actualité sur la consigne ou sur d'autres exigences en termes de substitution du plastique, etc. Ce sont des vraies questions, mais pour autant, la question urgente du moment n'est pas de savoir s'il faut substituer la consigne au tri des plastiques dans les centres de tri ou autres, ou les conséquences de telle ou telle disposition prise par la prochaine loi économie circulaire. La vraie question est de se reposer et de réfléchir de nouveau sur quelque part la solidité de nos bases. Enfin, c'est bien de voir loin, mais si les bases de l'édifice sont branlantes, eh bien voir loin ne donnera rien, puisque nous savons tout de suite que ce sera, les dispositions prises seront vouées à l'échec. Il faut de nouveau créer les conditions pour que la filière papier-carton, filière de recyclage papier-carton, soit suffisamment solide pour répondre aux gestes de tri toujours plus exigeants que nous demandons aux Français, à chaque citoyen. Et cette réflexion, elle doit commencer aujourd'hui, quelque part. Il faut s'emparer de l'actualité Chapelle d'Arblay, dont on parlait en début d'interview, de la mise en vente d'un site emblématique comme celui de Quai Chapelle d'Arblay, avec toute la responsabilité sociétale qu'il avait, pour savoir ce que nous voulons demain pour la filière papier-carton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire repenser la filière? Aujourd'hui, ce site est en vente. Très probablement, un repreneur, enfin en tout cas je l'espère, se positionnera, puisque ce site a des atouts extraordinaires. On est en bord du fleuve, on est connecté ferroviaire, on est en bord des grands axes routiers, et surtout on a une capacité de recyclage qui est hors du commun. Mais pour autant,
encore une fois, tu parles de 20 millions de trieurs, donc
voilà. Alors justement, ce geste, que vont devenir les 400 000 tonnes que nous utilisons? Ils vont, pour l'instant, bah, ils vont rejoindre les 1 600 000 tonnes de surplus que nous avons en carton d'emballage. Donc aujourd'hui, le problème de la filière porte sur quelques 2 millions de tonnes de papier carton. Donc au travers de la vente de Chapelle d'Arblay, eh bien, je pense opportunité.
Juste qu'on comprenne bien. C'est 1 600 000 tonnes, c'est quoi? C'est en France, tu veux dire, il y a 1 600 000 tonnes en surplus de carton qu'on n'arrive pas à traiter?
Oui, alors dans un article récent des Échos, je crois que c'était en septembre ou en octobre, le représentant de la branche papier carton Fédérec communiquait ce chiffre, qui semble-t-il, et le chiffre qui explique la surproduction, en tout cas l'absence de filière pour ces cartons recyclés, ces cartons issus du tri. Donc aujourd'hui, nous trions 1 600 000 tonnes de cartons en tout genre, alors cartons et gros de magasin, hein, tout confondu. Donc le gros de magasin étant le résidu du tri des papiers. Puisque lorsqu'on nous trions des papiers notamment pour l'usine Chapelle d'Arblay, eh bien le trieur sur la chaîne de tri met de côté des reliquats de carton et de papier qui ne correspondent pas à notre cahier des charges dans une alvéole, enfin dans un petit box de tri. Et ce papier a tout à fait un intérêt pour les cartonniers, un intérêt industriel, puisque le cartonnier s'en sert comme complément fibreux à sa production. Donc néanmoins, aujourd'hui, le gros de magasin, donc c'est ce résidu de tri de fibreux, hein, qui est majoritairement d'ailleurs constitué de papier et de carton, eh bien ne trouve plus preneur en Chine. et vient gonfler donc c'est ce stock impressionnant pour atteindre les 1 600 000 tonnes de carton qui ne trouve pas de solution de recyclage aujourd'hui.
L'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure sur le plastique aux États-Unis, on a la même chose en France avec le carton.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est une réelle inquiétude. C'est une source d'inquiétude pour les collectivités. C'est une source d'inquiétude pour les opérateurs. D'où l'intérêt de réfléchir sur la filière et sur l'avenir de sites industriels comme les nôtres lorsque leur avenir est menacé.
Et on parle souvent de la filière papier-carton, mais il y a une vraie différence de savoir-faire, d'équipement pour traiter ce carton.
Alors, c'est sûr que convertir une usine qui produit du graphique en usine qui produit du carton nécessite des capitaux importants. Il faut environ 60 millions d'euros pour convertir une machine. Donc les repreneurs éventuels s'engagent sur des projets industriels très capitalistiques, hein, de 80, 100 millions. Je crois que Blue Paper, à Strasbourg, lorsqu'ils ont reconverti une machine du groupe UPM qui faisait du magazine en machine pour produire du papier pour onduler, je crois qu'ils ont investi plus de 100 millions ou 120 millions d'euros. Donc ce sont des sommes énormes, mais quelque part qui trouvent leur justification dans le fait qu'aujourd'hui, il est plus pertinent de conserver la fibre à recycler sur le territoire et la transformer sur le territoire et donc produire un produit semi-manufacturé ou un produit semi-fini sur le territoire. Donc conserver la plus-value, la valeur ajoutée du produit sur le territoire et l'exporter vers l'Asie, puisque même si l'Asie a fermé ses frontières, la Chine a fermé ses frontières aux produits à recycler, en tout cas si elle apporte une exigence absolue sur la qualité des produits à recycler, eh bien pour autant, la Chine reste exactement de pâte recyclée ou de bobines pour l'emballage. Aujourd'hui, lorsqu'on commande sur Internet le moindre gadget, bibelot, habit ou autre, bien souvent, ce sont des produits malheureusement qui viennent de l'autre bout du monde, d'Asie, et qu'il faut emballer pour des questions logistiques, transporter, la cheminée, et donc ils ont un besoin important de carton. Le fait d'avoir fermé leurs frontières aux produits à recycler, ils se sont créés un problème énorme. Alors même s'ils ont une réaction très très rapide, la Chine est un pays qui réagit très très fortement et qui sait se relever de contraintes qu'il s'impose lui-même. Eh bien aujourd'hui, pour autant, ils ont besoin de papier pour emballage. Maintenant, l'Europe également. Aujourd'hui, on entend des grandes marques comme Coca-Cola ou comme Danone qui veulent, ou même des grands groupes de cosmétiques comme L'Oréal qui évoquent le fait de substituer leurs emballages plastiques par des emballages papier ou cartonnés. Donc, il est fort probable que demain nous ayons de nouveau une croissance sur le papier d'emballage. Et donc, ce qui justifierait, de convertir un site comme Chapelle Larblay pour lui redonner une perspective pour les 15 à 20 ans à venir.
Et alors ça, c'est intéressant parce que moi, j'aimerais aussi voir avec toi. Ok, ça coûte 60, 100 millions d'euros pour convertir un site industriel comme le vôtre, mais est-ce qu'on a une idée du coût de stockage ou du traitement actuel, donc qui doit être probablement peut-être de l'enfouissement, voire de la valorisation énergétique, de ces 1 600 000 tonnes de carton, sans compter les 400 000 tonnes que vous traitez actuellement de papier, combien ça coûterait aussi aux collectivités à l'année, et puis voir sur une, deux, trois décennies, et voir si finalement ce serait pas un service public à créer, à imaginer entre plusieurs collectivités, régions, etc., de façon à ce que ça ait peut-être du sens. Enfin voilà, je divague, mais l'idée me vient au fur et à mesure que tu réponds à mes questions.
Eh bien, de toute façon, la crise de la filière aujourd'hui nécessite de repenser tout le dispositif. Quel est le vrai coût de tri à effectuer? Quel est le vrai niveau de tri à effectuer? Et donc, quels sont les vrais coûts que doit supporter la collectivité? Ça, c'est la première question. Et c'est une question qui n'est pas négligeable, puisque aujourd'hui, le fait que les papiers cartons ne trouvent pas preneur, quelques 2 millions de tonnes de papier carton ne trouvent pas preneur, inévitablement, ce sont des recettes qui ne rentreront plus dans la poche de la collectivité, dans les comptes de la collectivité, et ce qui aurait pour conséquence éventuellement une hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui finance la gestion des déchets aujourd'hui.
Donc on parle une taxe qui a collé à l'impôt sur le revenu, si je me souviens bien, et que n'importe quel particulier paye.
Alors l'impôt sur la c'est la taxe foncière, je crois qu'il la recouvre, mais c'est oui c'est quelque chose.
Taxe d'habitation.
Donc la fiscalité locale va en prendre un coup et le pouvoir d'achat du coup des citoyens va en prendre un coup aussi. Donc c'est une vraie question ce sujet de financement des déchets et donc de éventuellement de réfléchir à la bonne échelle du tri, la bonne échelle de gestion des déchets. Alors ça passe par c'est ce que font les collectivités dans des campagnes de prévention, etc. Mais aujourd'hui cette problématique de filière pose la question aussi du vrai prix de rachat de ces matières, puisque comment sont financées aujourd'hui la gestion des déchets par la taxe ou la redevance, incitative ou pas, mais également par les soutiens des éco-organismes. Plus on trie, plus on produit des matériaux qui seront valorisés ou recyclés, et donc plus le soutien sera important pour les collectivités. Je rappelle que Citeo, c'est un budget de plus de 700 millions d'euros chaque année. Hein. Donc bien évidemment, ils ont leur coût de structure, mais une bonne partie est reversée aux collectivités. 700 millions d'euros.
Oui, j'entendais 1 700 000, je comprenais plus.
Non, 700 millions d'euros.
Oui, tout à fait.
Les recettes des industriels, eh bien, ne sont pas négligeables non plus. Hein. Quand il y a quelques mois, là, on va dire, il y a un peu plus d'un an, une tonne de papier était valorisée 90-100 euros tonne, une tonne de carton 80 euros tonne. Enfin, et qu'aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Oui, là, la crise est là, et c'est pour ça qu'il est important. Je pense que nos représentants, nos élus, s'emparent de ce sujet. Et tout, d'ailleurs pas seulement les élus, mais tous les acteurs de la filière, eh bien s'emparent de ce sujet pour réfléchir au modèle sur lequel il va falloir s'inscrire dans les mois ou les années à venir. D'où cette futilité du débat, enfin cette futilité momentanée, mais d'où l'urgence de réfléchir à cette problématique avant de se poser des questions qui peuvent paraître accessoires face à l'ampleur de la crise.
Surtout qu'en plus, je pense que la plupart des acteurs ont tendance à négliger un aspect, c'est le coût du transport. Aujourd'hui, effectivement, il est non négligeable, mais dans les années à venir, on sait très bien qu'à partir de 2023, les approvisionnements en pétrole sont de moins en moins fiables et donc le prix du transport augmentera d'autant. Donc si on n'a pas la capacité de gérer localement ce type de gisement, le problème va s'amplifier encore plus, quoi.
Il faut effectivement, il faut s'orienter le plus possible vers une consommation locale et un traitement local de nos déchets. Bon, il est sûr qu'en France, on est, et on peut s'en féliciter, on est des bons élèves au niveau du tri. On pourrait mieux faire, hein. Effectivement, à Paris, on peut dire que les performances sont peut-être pas au niveau de celles de certaines villes de province, et certaines villes de province ne sont pas encore au niveau de ce qu'on pourrait estimer par rapport à la consommation des emballages ou des papiers. On pourrait encore mieux faire. Et donc c'est évident qu'il faut qu'on seule la France en France nous n'avons pas suffisamment de capacité de recyclage pour traiter tout ce que nous avons trié, mais il faut conserver cette longueur d'avance, puisque ça quelque part ça eh bien ça nous permet de valoriser ces produits sur d'autres pays de proximité, en Allemagne ou ailleurs. Mais il faut que ça reste le plus possible local. C'est pour ça que le fait d'imaginer voir disparaître une nouvelle unité de transformation de papier carton en France est quelque chose dont on ne peut pas se satisfaire. Il faut absolument trouver les acteurs qui pourraient reprendre le flambeau de ce site et de manière à continuer à trier et à retraiter localement.
Oui, tout à fait. Et justement. Alors, je sais bien que tu y crois, etc., mais les échéances à venir, est-ce qu'on parle de 3 à 6 mois ou c'est déjà un petit peu plus long? Comment ça se présente?
Les échéances sont effectivement de 3 à 6 mois, en tout cas concernant le site Chapelle-Larblay.
D'accord.
Alors, des repreneurs... des marques d'intérêt ont été manifestées auprès de des personnes en charge de gérer ce dossier. Nous en saurons plus mi-janvier et sachant que voilà fin juin est là. Et la fin du calendrier qui a été annoncé aux salariés de Chapelle Larmée. Donc oui, il y a urgence, et l'urgence c'est maintenant, et la prise de conscience c'est maintenant.
Surtout que le site de Chapelle Larmée c'est plusieurs centaines d'emplois si je me souviens bien.
Alors le site de Chapelle Larmée c'est 230 emplois directs, hein, c'est 1000 familles en tout qui seront concernées, qui seraient concernées par une éventuelle fermeture, en tout cas qui sont concernées par l'avenir du site.
Mmh. Ok. Et justement, si tu avais des conseils aux politiques ou aux repreneurs potentiels sur comment bien justement traiter ce sujet, enfin, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour avoir une décision, disons, éclairée?
La décision éclairée, alors effectivement, je manque un peu d'objectivité, mais enfin, d'abord, il faut rendre attractif le site. Le site est attractif. Il est embarraqué, il est situé sur une zone portuaire, hein, il est connecté à la logistique ferroviaire, à la logistique autoroutière. Il dispose d'emplois qualifiés, d'emplois industriels qualifiés, à l'heure où certains voudraient voir l'industrie s'en aller très loin des villes. Là, il faut s'enorgueillir d'avoir une belle industrie centenaire sur un territoire, un bassin d'emploi, avec des emplois papetiers, des emplois de mécaniciens, d'électromécaniciens, des emplois industriels performants qui font l'excellence industrielle française d'ailleurs. Donc tout ça, les pouvoirs publics doivent le mettre en avant. Ensuite, il y a la question de l'énergie. Nous avons sur le site une chaudière biomasse. Je sais qu'aujourd'hui, la biomasse est un peu plus discutée, mais je pense qu'il faut défendre cette filière, puisque Chapelle Larmée, c'est aussi un site qui a porté cette filière biomasse, et donc il est important de réfléchir sur les accompagnements au titre de cette production d'énergie verte. Après, c'est un site qui dispose de beaucoup d'atouts. Nous avons un centre de tri sur le site, nous avons une station d'épuration, nous avons 33 hectares de disponibles. Enfin, le site fait 33 hectares et moins de 2/3 de ce site pourrait être disponible pour accueillir d'autres activités. Donc il y a un potentiel énorme. Nous avons 2 machines à papier, même si l'une a été arrêtée il y a 4 ans. Nous avons 3 unités de désancrage, même si les 2 ont été arrêtées également il y a 4 ans. Mais nous avons de quoi. Donc nous avons de quoi faire un projet multiple. C'est-à-dire, je pense pas qu'il
y ait... Avec juste une machine, vous faites encore 400 000 tonnes de papier par an.
Nous consommons 400 000 tonnes, enfin un peu moins de 400 000 tonnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on imagine n'accueillir qu'un seul projet industriel pour reprendre une machine, la convertir, selon moi, ça ne sera pas suffisant, ce sera un échec. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres atouts. On peut imaginer accueillir quelqu'un qui fera du carton, mais on peut également, quelque part, ouvrir... enfin, permettre au repreneur principal d'accueillir d'autres projets industriels de production de pâtes, par exemple, puisque
oui,
certains
qui seraient complémentaires de l'activité actuelle.
Exactement, qui permettrait d'ailleurs au repreneur principal, eh bien, de partager ses coûts de fonctionnement, ses coûts d'énergie, ses frais fixes, certains frais variables également. Donc je pense qu'il faut regarder.
Et optimiser toute la logistique entre deux activités comme ça.
Exactement, et les acteurs portuaires sont là également, sont mobilisés de manière à ce que l'éventuel repreneur puisse bénéficier, eh bien, des infrastructures les plus flexibles possibles, qui répondront au mieux à ses attentes. Donc tout le monde est en ligne pour que sur Chapelle Larmée, eh bien, brille de nouveau un pôle d'excellence en termes de recyclage, papier-carton.
Et alors, si je te pose la même question, mais plus... pardon. Si je te pose la même question, mais plus comment traiter ce sujet de la filière papier, mais en général, pas uniquement sur le site de la Chapelle Larmée.
C'est une question compliquée, j'ai pas la prétention de.
Non, non, mais en tant que professionnel, je suis persuadé que tu as des éléments clés qu'il faut prendre en compte, qui doivent rentrer dans la réflexion d'un décideur. Quoi.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'enseignement que nous avons de la Chine, c'est qu'aujourd'hui, il faut Seuls les sites, les acteurs qui produiront de la qualité trouveront une solution pour leurs matériaux valorisables, recyclables. Donc ça suppose que déjà le geste de tri peut-être soit mieux expliqué, soit peut-être mieux réalisé, peut-être en ayant des collectes séparées. Enfin, là-dessus il peut y avoir débat selon qu'on est en milieu urbain ou semi-urbain ou rural. Mais en tout cas en termes de tri, il faut que le tri soit un tri d'une exigence absolue, de manière à répondre certes à un papetier français, mais à un papetier européen, un papetier étranger, où chacun parlera du même critère qualité, de la même sorte en termes de qualité. Donc ça c'est important pour demain. Après, bien évidemment, c'est un comportement de chacun dans notre façon de consommer, dans notre façon d'acheter. Je pense qu'il faut réfléchir aussi. Demain, la filière peut retrouver quelque part de belles années si on prend conscience des vraies choses et des vrais enjeux environnementaux aussi. Aujourd'hui, on nous vante la 5G. Est-ce que la 5G est quelque... Oui, c'est très bien pour envoyer des documents toujours plus volumineux. Mais est-ce que nous avons vraiment besoin, dans notre quotidien, dans notre sphère privée, d'outils comme ceux-ci? Est-ce que parfois un papier n'est pas plus pertinent que l'envoi de messages? Il faut se poser la question, une question d'organisation de notre société, d'organisation de nos relations de demain.
Tu sais, même chez les grands opérateurs téléphoniques, j'en ai rencontré quelques-uns dernièrement qui me disaient qu'il y avait des équipes entières qui se posaient la question de l'utilité de la 5G aussi. Donc, c'est un vrai choix, non seulement de société, mais même technique, quoi.
Oui, donc il y a des choix. Ne nous laissons pas quelque part bercer par des orientations prédéfinies par d'autres et qui feront notre monde de demain. Je pense que chaque citoyen, c'est pour ça que je disais en me présentant que j'avais deux jeunes enfants, je pense qu'il faut penser à eux et que ce sont eux qui devront supporter nos choix d'aujourd'hui. Donc il faut peut-être les écouter un peu plus et trouver le chemin de la raison. C'est pas l'un ou l'autre, hein. Je n'oppose pas deux mondes, le monde du papier au monde dématérialisé. En revanche, donc il ne faut pas les opposer, mais par contre il ne faut pas que le monde du papier soit l'ancien monde. Le papier est inventé il y a des milliers d'années, il a toujours une utilité, il en aura demain, et c'est aussi un vecteur d'humanité, un vecteur de lien, c'est du lien social aussi, le papier. Donc ça, faut pas l'oublier.
Oui, c'est de la communication, oui, tout à fait.
Donc c'est, voilà. Enfin, c'est du comportement avant tout, c'est de l'exigence et c'est des choix de société. Faut pas se tromper de choix. Et aujourd'hui, on est face à des choix.
Donc alors, pour résumer juste tes derniers propos, donc être exigeant sur la qualité de tri. Aussi se poser des véritables questions sur les choix de société. Et puis, est-ce qu'il y a aussi des aspects sur la résilience qu'on a brièvement évoqué sans l'évoquer aujourd'hui, mais la résilience d'un territoire, c'est aussi pouvoir traiter localement ses ressources, que ce soit à l'approvisionnement ou en fin de vie. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui doit être pris en compte, je suppose.
C'est sûr que avant de produire quelque chose, avant d'utiliser un support, il faut se poser la question du choix de ce support. On le voit pour le papier. Enfin, encore une fois, c'est plus le citoyen qui parle, hein, mais déjà, est-ce que la communication est nécessaire et est-ce que le support choisi est le support le mieux adapté, le plus adapté à ce qu'on a envie de faire. Enfin, si on ne reste qu'au graphique. Après, effectivement, des organisations de territoire, eh bien, ça doit également se réfléchir au travers l'emploi, au travers son industrie, et se poser la question de savoir si tout est mis en œuvre de façon à faire briller son activité économique sur le territoire, de mettre en valeur les emplois, de mettre en valeur les produits, de mettre en valeur et surtout le recyclage. Quand sur Rouen, enfin, si on interroge les Rouennais ou les habitants de la métropole sur l'existence, sur leur connaissance, sur le fait de savoir s'ils connaissent S'ils savent que sur leur territoire, eh bien, est présent l'usine où a été inventé le recyclage du papier et où se recyclent des milliers de tonnes, des centaines de milliers de tonnes de papier, je suis pas convaincu qu'ils soient très au fait de ça. Et pourtant, nous avons organisé une journée porte ouverte. Les salariés ont organisé, les représentants des salariés, le syndicat a organisé une journée porte ouverte il y a maintenant un mois et demi sur le site. Outre le succès qui a été rencontré, hein, près de 1500 personnes se sont déplacées. Eh bien, la remarque à chaque fois, c'est de dire mais vous avez une usine extraordinaire. Nous ne comprenons pas pourquoi elle fermera. Le recyclage, c'est un métier, c'est quelque chose de c'est l'avenir. Vos emplois qui sont inscrits dans l'environnement sont des emplois voilà dont on ne peut pas imaginer que demain il eh bien il soit supprimé donc oui bien évidemment il faut être conscient de ça, il faut que les territoires soient conscients de ça.
OK, et ben merci pour tous ces éclairages sur le sujet. Je pense que c'était important, d'autant plus que c'est un sujet qui est d'actualité, parce que effectivement n'importe qui touche du papier tous les jours, et donc ça me semblait important d'en discuter avec toi. J'en profite d'ailleurs pour saluer Didier qui nous a mis en relation il y a quelques années, et puis que j'avais interviewé pour le premier épisode du podcast. Donc c'est pour ceux qui l'ont pas encore écouté, je le recommande, c'est aussi un très bon épisode. Est-ce que tu as des choses à ajouter à tout ce qu'on s'est dit?
Bah, rajouter le fait que oui, c'est grâce à des personnes comme Didier, eh bien, qu'on ne se contente pas de ce qui a été fait et qu'on peut toujours aller plus loin. Didier nous a appris, m'a appris qu'on pouvait continuer à inventer dans le recyclage en portant une exigence et une belle exigence, puisque au travers le recyclage, c'était l'emploi qui le remettait au cœur du sujet. Et il a permis de créer une belle entreprise qui aujourd'hui est Nouvelle Attitude, deux belles entreprises, Nouvelle Attitude et Recigo, qui aujourd'hui, toutes les deux, permettent à plusieurs centaines de personnes de retrouver de l'emploi au travers de la collecte et le recyclage des papiers. Donc bravo à lui. Je crois qu'il a continué sur d'autres aventures, sur la réutilisation, sur le réemploi des bateaux, de plaisance.
C'est exactement ce qu'il nous a raconté dans le premier épisode, mais oui, tout à fait, tu fais bien de le saluer. Je te dis merci beaucoup Arnaud pour cet entretien, et puis j'espère à bientôt.
Merci Brieux, merci de l'intérêt que tu portes à toutes ces questions liées à l'environnement.
Bah non, mais c'est tout à fait normal. Bah, je te souhaite une bonne continuation, et je ne manquerai pas de tenir au courant ceux qui le souhaitent de l'évolution du site de la Chapelle d'Arblay. Très bonne suite à toi.
Merci, au revoir.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.